Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h à Melbourne, 5h du matin en France. Vous écoutez SBS French, votre programme en français sur Radio SBS. Je suis Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et au programme de cette heure, comme chaque jeudi, de l'économie. Et aujourd'hui, la première partie du numéro 100 d'Europa Voice, 100 épisodes consacrés à l'actualité européenne. Aujourd'hui, dans cette première partie, on parlera de la visite d'Anthony Albanese au Palais de l'Élysée la semaine dernière à la rencontre d'Emmanuel Macron, opération séduction, opération réconciliation entre Paris et Canberra. Est-ce que ça a fonctionné? Vous entendrez ça en deuxième partie d'émission. On commence d'abord par votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 7 juillet 2022, les inondations sur la côte est de l'Australie et notamment en Nouvelle-Galles du Sud, l'heure est à la reconstruction, mais le gouvernement appelle à la prudence. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale en France, la chef du gouvernement Elisabeth Borne a prononcé son discours de politique générale devant un hémicycle chahuté. 1 million de musulmans attendus à la Mecque en Arabie Saoudite. Ce jeudi 7 juillet marque le premier jour du pèlerinage annuel sur fond de restrictions sanitaires. Et enfin, du sport et la 5e étape du Tour de France. L'Australien Simon Clark s'impose sur les pavés du Nord. Tous les détails dans l'édition des sports à la fin de ce journal. On ouvre ce journal avec les terribles inondations qui frappent une fois encore une partie de la côte est de l'Australie. Les intempéries commencent à se calmer et s'ouvrent maintenant la phase de déblayage, nettoyage et de lente reconstruction. La ministre des services d'urgence de la Nouvelle-Galles du Sud, Steph Cook, exhorte les habitants qui retournent progressivement chez eux à se montrer prudents.
As the weather situation changes and the flooding emergency is winding down, the recovery efforts are winding up. So the SES has conducted near on 800 rapid damage assessments in the past 24 hours and those rapid damage assessments will start to ramp up as areas are cleared and people are able to return to their homes.
Attention toutefois, la menace demeure pour des dizaines de milliers de riverains dans la région de la Hunter Valley notamment et sur la côte. Autre ministre, Penny Wong, est-elle en déplacement à Singapour? Lors de son discours à l'Institut international d'études stratégiques, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que la sécurité de l'Asie du Sud-Est est une préoccupation vitale pour l'Australie, je cite, appelant à renforcer les relations dans la région. Penny Wong, qui évoque également la possibilité de rencontrer son homologue chinois lors du prochain sommet du G20 prévu à Bali, on l'écoute.
The new Australian government has made very clear, we see our future in this region. We see our security in this region, and it is a shared vision or shared interests about the nature of the region we want. One which is governed by rules and norms so that behaviour is predictable, and one that is peaceful, prosperous and stable.
Et en parallèle, la première ministre néo-zélandaise a appelé à établir une vision à plus long terme avec le Pacifique. Jacinta Ardern s'est exprimée depuis Sydney en marge d'un rendez-vous avec le groupe de réflexion Lowy Institute. Elle était interrogée sur les ambitions de la Chine dans la région et notamment la signature d'un traité de sécurité avec les îles Salomon.
Yes, we have long-standing and deep relationships. China has quite long-standing relationships in the Pacific too. And the Solomon Islands in 2019 obviously flipped their recognition from Taiwan to China. And who are we to argue on that when New Zealand itself holds a one China policy? So where our point of contest here is, though, is the fact that we're entering into this space that could lend itself to militarisation, which we have deep concern over.
On ouvre la page internationale à présent en commençant par la politique française. On le disait en titre, baptême du feu pour la première ministre hier. Elisabeth Borne a prononcé son discours de politique générale devant une assemblée nationale chahutée. Elle a annoncé ses priorités, réforme des retraites, écologie, pouvoir d'achat. Elle appelle au compromis ce que ses opposants rejettent en bloc. On écoute la réaction du communiste Fabien Roussel juste après la déclaration.
La politique de ce gouvernement, ça va rester la politique des petits chèques. Des petits sous qu'ils vont distribuer. Eh bien, la politique des petits chèques, ça va contribuer à avoir des petits salaires. Et ça, c'est une petite France. Ça n'a pas d'ambition pour notre pays. Et je le regrette fortement. Quand on veut revaloriser le travail, c'est le salaire qu'on augmente. Et pas les minima sociaux, je suis désolé. Mais ce sont les salaires qu'il faut augmenter aujourd'hui. Et fortement. Et puis, il faut s'attaquer aux causes de l'inflation. Sinon, ça va continuer. Or, aujourd'hui, il n'y a rien. Rien pour s'attaquer aux causes de l'inflation, et notamment aux profiteurs de crise, et rien pour augmenter les salaires. Même pas le SMIC, même pas convoquer une conférence sociale pour parler de toutes ces branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC.
Autre réaction négative également, celle de Marine Le Pen qui dénonce un discours creux.
Objectivement, j'ai trouvé ce discours totalement indigent sur le plan politique. Entendre durant une heure et demie qu'il faut lutter contre la maladie, le mauvais temps, le chômage, bon, très bien, c'est difficile effectivement d'être contre cet enfilage de perles, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de vision politique. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas où nous emmène Madame Borne, mais je ne suis pas sûre qu'elle le sache elle-même. On ne sait pas où elle va, on ne sait pas quelle est sa philosophie, on ne sait pas quelle est sa vision politique, on ne sait rien, on sort de là tous un petit peu désabusés et presque déstabilisés par cette absence totale de fond.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour la politique française. Direction le Royaume-Uni à présent et sous l'avalanche de la démission de ses ministres, eh bien Boris Johnson tient bon. Le Premier ministre britannique n'a visiblement pas l'intention de renoncer à son poste malgré les scandales à répétition et les nombreux appels à la démission dont il fait l'objet. Emeline Vin, Radio France Internationale.
Après une quarantaine de démissions, c'est sur un licenciement que s'est achevée la journée. Boris Johnson a remercié son ministre du nivellement par le haut, Michael Gove, qu'il avait appelé à la démission quelques heures plus tôt. Michael Gove, concurrent de Boris Johnson à la dernière élection pour la tête du parti, a participé dans la soirée à la délégation de ministres. Quasiment tous les membres du gouvernement se sont rendus à Downing Street, y compris les plus fidèles. Priti Patel, ministre de l'Intérieur, Brandon Lewis à l'Irlande du Nord, même Nadim Zahawi, nommé seulement 24 heures auparavant aux finances, tous pour convaincre le Premier ministre de démissionner. Hors de question pour Boris Johnson, le chef du gouvernement s'accroche à ses 14 millions de voix de 2019. Il juge qu'il serait irresponsable de partir maintenant. Interrogé par les parlementaires dans l'après-midi, il estimait que les appels à la démission visaient à le détourner de son mandat politique, lutter contre la crise économique et soutenir l'effort de guerre ukrainien notamment. Le Premier ministre écarte la possibilité d'élections anticipées. Un ministre confie ce mercredi soir à la BBC, c'est maintenant une question d'heures avant qu'il ne parte.
La Commission européenne planche aujourd'hui sur la question du gaz et des énergies, notamment depuis le dernier train de sanctions pris à l'encontre des importations russes. Un plan d'urgence va être créé et la Commission recommande aux États européens de stocker un minimum de gaz juste au cas où. On écoute la présidente Ursula von der Leyen.
We also need to prepare now.
Nous devons nous préparer maintenant à une nouvelle interruption de l'approvisionnement en gaz et même à une coupure complète de l'approvisionnement en gaz russe. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, 12 États membres sont déjà directement concernés par une coupure partielle ou totale du gaz russe. Il est donc évident que Poutine continue d'utiliser l'énergie comme une arme et c'est pourquoi la Commission travaille sur un plan d'urgence européen. Nous présenterons ce plan et les instruments nécessaires d'ici la mi-juillet. Les États membres ont leurs plans d'urgence nationaux, c'est bien. Mais je pense que nous avons besoin d'une coopération européenne et nous avons besoin d'une action commune des 27. Nous devons donc nous assurer qu'en cas de perturbation totale, le gaz circule là où il est le plus nécessaire.
Et c'est exactement dans ce contexte que le Sri Lanka crie à l'aide. Le pays est en faillite totale depuis 4 mois et peine à importer ses produits essentiels comme le carburant. Le président de l'île en appelle à son homologue russe Vladimir Poutine pour lui fournir du pétrole, mais aussi des touristes. Ablajo Naidi, RFI.
Rien ne semble mettre fin aux pénuries dont souffre le Sri Lanka depuis des mois et la marge de manœuvre de l'exécutif se réduit de jour en jour. Désormais, le FMI exige un plan de restructuration de sa dette et des réformes, dont la fin des subventions sur le carburant, avant de venir à la rescousse du pays en faillite. En parallèle, depuis des semaines, des délégations sri-lankaises multiplient les voyages à l'étranger afin de négocier l'importation de carburant, avec des arrêts au Qatar et en Russie. Pour faciliter les transactions, le pays a ouvert son marché aux compagnies pétrolières étrangères pour la première fois en 60 ans. Ce mercredi, le président sri-lankais en appelle directement à Vladimir Poutine pour que son pays fournisse le carburant dont le pays a besoin urgemment. Il demande aussi la reprise des vols entre les deux pays, interrompus à cause de la saisie temporaire par la justice locale d'un avion de la compagnie d'État russe Aeroflot à la suite d'un différend financier. Une demande formulée humblement par la présidence sri-lankaise. Il faut dire qu'avant la crise, la Russie était de loin le premier pourvoyeur de touristes au Sri Lanka.
Direction le Nigeria, où plus de 400 détenus se sont échappés d'une prison près de la capitale. Après une attaque de combattants du groupe djihadiste Boko Haram, 4 détenus, un agent de sécurité et plusieurs assaillants ont été tués dans le raid. Le groupe État islamique a depuis revendiqué l'attaque. Le ministre de la Défense, Bachir Magaji, déclare pour l'heure avoir localisé environ 300 des détenus en cavale.
They came specifically for their co-conspirators, and but in order to get them, some of them are in general population, so they broke out, and other people in that general population escaped as well. But many of them have returned. They have reported themselves to the police. Some have returned. Some we have successfully retrieved from the bushes where they're hiding.
Aux États-Unis, les suites de la fusillade qui a fait 7 morts à Chicago le jour de la fête de l'indépendance. Les autorités affirment que le suspect Robert Cremo, 21 ans, prévoyait une deuxième attaque dans la foulée dans le Wisconsin. S'il a reconnu sa responsabilité dans la fusillade, ses motivations ne sont pas encore claires.
Investigators did develop some information that it appears when he drove to Madison, he was driving around. However, he did see a celebration that was occurring in Madison. And he seriously contemplated using the firearm he had in his vehicle to commit another shooting.
In Madison.
Do you know how much ammunition he had at that point?
Approximately 60 rounds.
C'était Chris Covelli, porte-parole du groupe de travail sur les crimes majeurs de Lake Country. Et enfin, on le disait en titre, le pèlerinage à la Mecque commence aujourd'hui pour 1 million de musulmans autorisés à se rendre dans la ville sainte. Un pèlerinage après 2 ans de restrictions sanitaires. L'Arabie Saoudite rouvre ses portes mais reste vigilante au Covid. Guillaume Deltey, RFI.
1 million de pèlerins, c'est 16 fois plus que l'an dernier, 1000 fois plus qu'en 2020. 2 ans après l'apparition du Covid-19, les autorités saoudiennes ont décidé de réautoriser pour la première fois un pèlerinage de grande ampleur avec des fidèles venus de tous les continents. Ce Hajj est l'un des plus grands rassemblements dans le monde depuis le début de la pandémie. Mais 1 million de pèlerins, c'est encore 2 fois moins qu'en 2019. Signe que le Covid pèse encore sur l'organisation. L'Arabie Saoudite a d'ailleurs repensé les préparatifs de ce pèlerinage. Jusque-là, les fidèles passaient par des agences de voyage spécialisées pour obtenir l'autorisation de se rendre à la Mecque. Cette année, celles-ci ont été interdites et c'est une loterie gouvernementale qui donnait le droit ou non de faire le voyage. Mais tout le monde ne pouvait pas participer à cette loterie. Seuls les fidèles vaccinés étaient autorisés à présenter une candidature. Et si l'obligation du port du masque dans les rues de la Mecque a été levée, le royaume exigeait tout de même la présentation d'un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ, mesure de précaution pour diminuer le risque d'avoir des pèlerins porteurs du virus.
Un regard sur la météo australienne de cet après-midi. Perth, nuageux, 19 degrés. Adélaïde, nuageux également, 15 degrés. À Melbourne, comptez 14. Hobart, il y a des averses, 13 degrés. C'est nuageux à Canberra, comptez 15 degrés. Nuageux également à Sydney, 18 degrés. Du soleil à Brisbane, 23 degrés. Du soleil à Cairns, 25 degrés. Et du grand soleil à Darwin, 28 degrés. Les inondations sur la côte est de l'Australie et notamment la Nouvelle-Galles du Sud, l'heure est à la reconstruction, mais le gouvernement appelle à la prudence. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale en France, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a prononcé son discours de politique générale devant un hémicycle chahuté. 1 million de musulmans attendus à la Mecque en Arabie Saoudite. Ce jeudi 7 juillet marque le premier jour du pèlerinage annuel sur fond de restrictions sanitaires. C'est votre rappel des titres.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur SBS French. Ce n'est bien sûr pas la fin de cette émission. Il nous reste encore 45 minutes à passer ensemble. Et tout de suite, maintenant, c'est le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la 5e étape remportée hier par l'Australien Simon Clark, 35 ans sur les pavés du nord de la France. On l'écoute au micro de SBS.
Yeah, I can't believe it actually. Even when I crossed the line, I didn't think I'd won. I was quite still a fair way behind Taco in the final meters, and I just threw my bike as hard as I could, thinking it's now or never. You know, maybe I never get close to another stage like this. So, yeah, I honestly thought I didn't get it, but then they checked the photo finish and told me I'd won. So, yeah, it's can't believe it.
You're known as a pretty smart bike rider. So, what was going through your mind in those last few kilometers?
Yeah, I mean, if you panic, you lose, and we saw that in the last kilometer today. You know, Nielsen went first, Bosnagan went after him. Taco went straight over the top of us when we caught, and I just waited and waited, and you know the important thing is to cross that line first. So yeah, I was lucky that things worked out well, but I also said I can't sprint for 800 meters, so I need to line this up and have the run at the line at the right time. So in the end it worked out perfectly.
And I think everyone wanted to be in the breakaway today. How hard was it to get into that break early on?
Yeah, it was tricky, particularly with such winding roads in the start there. We were diving through towns and laneways, and it was really hard to even just get to the front of the bunch, let alone break away. But fortunately, there was that kind of big group and already with the three guys away, quite often when the peloton catches that back, everyone rests a little bit, and I just thought now's the moment to try and jump away, and fortunately it was, and we got a really nice group. That was a super strong breakaway. You see those names and they're class bike riders, so I knew that today we were going to go very close to staying away, if not going all the way.
Well, you absolutely nailed it. Congratulations and enjoy the win.
Thanks very much. Hello to everyone in Australia.
Et maintenant, le bilan de cette étape, de cette 5e étape avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Il y avait de la poussière noire sur le blanc de son maillot et peut-être aussi des reflets jaunes sur les redoutés pavés du Nord qu'il découvrait. Tadej Pogacar n'a pas encore récupéré son maillot préféré, mais le passe-partout slovène, impressionnant d'adresse et de puissance, a gagné un peu de temps et encore plus de crédit.
Par chance, rien ne m'est arrivé aujourd'hui. Dans les pavés, c'est chacun pour soi et je voulais surtout ne pas perdre de temps. À la fin, j'en gagne même un petit peu par rapport aux autres favoris. Pas beaucoup, mais ça reste une bonne journée.
Une bonne journée pour Pogacar est en général une mauvaise pour les autres. Roglic, son rival numéro 1, est tombé, épaule touchée et 2 minutes de l'essai. Mais Vingegaard, Vlasov, Bardet et Godu ont limité la casse, 13 secondes seulement de perdu. Bref, le tour est encore loin d'être joué, nous dit le méfiant Mauro Gianetti, manager de Pogacar dans l'équipe UAE.
C'est vrai que Vingegaard, il a pratiquement rien perdu. Il y a Vlasov encore qui est là. Roglic, il a perdu un peu plus de temps, mais peut-être dans la position qu'il a, il peut jouer différemment certains quarts. Donc aujourd'hui, c'était important de ne pas perdre du temps. On a gagné une dizaine de secondes. Moralement, c'est bien, mais ça ne change pas grand-chose.
Un pas grand-chose qui veut quand même en dire beaucoup.
Ben O'Connor, un autre Australien, a eu quelques problèmes hier, des crevaisons, des embouteillages à gérer, et il est au micro de SBS à nouveau.
Ben, that was a pretty wild day. I think Australia is super relieved that you're in one piece, but it was a day about, you know, avoiding bad luck and limiting losses. Can you talk us through some of your moments of bad luck today?
Well, I just kind of had one. That was on the second sector I punctured. And yeah, the race started to split a lot. And then it was really, really hard to chase back. There was a million cars in between, too many motorbikes and TV cameras everywhere. And the TV camera would come in front of you, and then all of a sudden there's a big traffic jam. So it was a bit rough for us to chase, and yeah, we never could get close.
Did the team have a bit of a strategy before the race for moments such as this? And do you think as a team it was managed as well as you could have in the race?
Maybe we could have all stopped straight away, maybe. But I still had Geoffrey and Mika and Benoit for the start. And then eventually Ollie and Bob were with me until the very end, to be honest. They did pretty much the last 40k. It's just those two guys. So I can't thank them enough, really, because we stayed together and we just tried to do a team time trial, but once again we lost a lot of time on the pave with the cars.
I can see your fingers are all strapped up. What was the hardest thing you found about the cobbles today?
To be fair, it wasn't the cobbles. I honestly can't lie. It's just really bad luck. I'm a bit sad and a bit disappointed. I feel calm for once because it's been stressful the last couple of days, but yeah, I'm just a bit sad because there wasn't a lot else I could have done today.
Thanks for your time.
Wout van Aert, le Belge, garde le maillot jaune donc pour au moins un jour de plus. La sixième étape, ce sera pour ce jeudi. On passe au tennis à Wimbledon. Chez les dames, l'Australienne Alia Tomljanovic s'est inclinée en quart de finale face à Elena Rybakina, la Kazakh, en trois manches. Simona Halep, la Roumaine, a battu Amanda Anisimova, l'Américaine, en deux manches. Ce jeudi, Once Jabeur, la Tunisienne, jouera pour sa première demi-finale en Grand Chelem contre Tatiana Maria, l'Allemande. Et puis hier, l'Australien Nick Kyrgios a battu Christian Garin, le Chilien, en trois manches pour une place en demi-finale. Une première en Grand Chelem pour l'Australien. Il est ravi.
An amazing atmosphere out here again. I just never thought I'd be at a semi-final of a Grand Slam. Honestly, I thought my ship had sailed, obviously. You know, I didn't go about things great earlier in my career and may have wasted that little window, but, you know, just really proud of the way that I've just come back out here and with my team and just to be able to put on a performance.
Et puis hier, l'Espagnol Rafael Nadal, blessé, a éliminé Taylor Fritz, l'Américain, en cinq manches. Et pour le moment, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer la demi-finale contre Nick Kyrgios. Cam Norrie, le Britannique, jouera en demi-finale contre Novak Djokovic, qui a éliminé Jack Sinner, l'Italien, mardi en 5 manches, alors que le Serbe était mené 2-7-0. Réaction de Novak Djokovic lors de la conférence de presse.
You know, I always believed that I could come back. I know that, you know, experience that I have could eventually prevail in this kind of situations.
On passe au foot. La CAN féminine se poursuit au Maroc avec quelques résultats d'hier. Victoire de la Tunisie contre la Zambie, 1-0. Le Cameroun et le Togo ont fait match nul, 1-1. Il y a eu la victoire du Sénégal mardi contre le Burkina Faso, 1-0. Hugo Moissonnier, RFI.
Une Sénégalaise est à terre, l'arbitre visionne le ralenti plusieurs fois. Et au bout du suspense, elle siffle pénalty pour les Lyonnes. Cor Kafal ne tremble pas, victoire et qualification historique pour les quarts de finale.
On est contente pour la victoire et tout.
C'est le Sénégal qui gagne toujours.
On aimerait aussi que les Lyonnes remportent la CAN. Les filles peuvent faire ce que peuvent faire les garçons. Tout à fait.
Oui, ça m'a fait énormément de plaisir.
d'avoir gagné et d'avoir vu mon équipe de l'avant. Vous voyez les supporters qui sont aujourd'hui et ils se donnent à fond pour que l'équipe puisse gagner la Coupe d'Afrique.
Dei Diakaté, la numéro 10, première buteuse du Sénégal en Coupe d'Afrique, partage évidemment la joie de ses supporters.
On a beaucoup de travail aussi. La victoire vient naturellement. Ah, on est très contente, franchement. On est très, très, très contente.
Et là, on pense Coupe du Monde, là ?
Bien sûr. C'est ça notre objectif.
Et oui, en cas de victoire en quart de finale, les Lyonnes seraient qualifiées pour le premier mondial de leur histoire.
Les demi-finalistes de cette CAN de 2022 seront qualifiés pour la Coupe du Monde de 2023. Les deux vainqueurs des matchs du classement du 17 juillet disputeront des tournois de repêchage pour le mondial organisé en février 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis hier, le début de l'Euro de foot féminin en Grande-Bretagne avec l'Angleterre qui a battu l'Autriche 1-0. On revient sur l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Explication de Martin Guèze pour RFI.
Vous avez fait le taf, on est fiers de vous, on y est les gars.
La méthode et le discours. Christophe Galtier a des cartes dans sa manche, des atouts comme sa poigne qui lui ont permis de mener Lille au titre de champion de France, comme on vient de l'entendre. Une recette qu'il compte appliquer au PSG.
Première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. Il n'y aura pas de compromis. Je sais que j'aurai l'appui de la direction pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qu'est le projet.
Parce que c'est notre projet, dit Galtier, et qu'importe si certains trouvent le costume trop grand pour lui. Dominique Sévrac, consultant de Radio Foot, spécialiste du club parisien, n'est pas de cela.
C'est quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité. Il n'y a que Guardiola et Klopp pour entraîner des vestiaires avec des égos surdimensionnés. Bon, bah, on va vite faire le tour. Mais Galtier, il saura faire et les joueurs vont s'adapter à lui.
Et Galtier n'arrive pas seul. Les joueurs vont devoir aussi s'habituer au directeur sportif portugais Luis Campos. Un duo mauvais flic dont le PSG avait visiblement besoin.
Le Paris Saint-Germain a été trop longtemps un club med où on faisait ce qu'on voulait. Galtier, il ne sera que la courroie de transmission de Campos. Campos, c'est quelqu'un d'autoritaire qui fait pas de distinction entre un jardinier et une star. Et donc c'est ça que le PSG va découvrir. C'est plutôt la méthode Campos.
Une méthode dure et un discours musclé qui devront porter leurs fruits dans l'éternelle quête d'une première Ligue des Champions.
Les Jeux du Commonwealth de 2026 dans le Victoria, avec la date de la cérémonie d'ouverture confirmée pour le 17 mars au stade MCG. Les Jeux se tiendront aussi dans les régions rurales, dans le Gippsland, dans la ville de Geelong, Ballarat et à Bendigo. C'est ce qu'a annoncé la chef adjointe du Victoria, Jacinta Allen.
There's great excitement in regional Victoria, but before we get to the 2026 Commonwealth Games, we will be cheering our athletes along in Birmingham in just a few weeks' time. And so in just a few weeks' time, we'll see the Commonwealth's best athletes perform on that international stage.
Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi...
C'était la chanson Mon Amour, single du dernier album de Stromae, Multitude, sorti cette année en 2022. Restez sur SBS French tout de suite et comme chaque jeudi, c'est l'heure de la page économie.
Pour des raisons techniques, on ne peut vous présenter l'actualité de l'économie australienne ce jeudi. À sa place, on vous propose un extrait de l'émission de RFI, l'économie aujourd'hui, avec Julien Chavanne et Dominique Bayard sur la question de la crise de l'énergie avec plusieurs pays occidentaux qui vont réduire leur consommation.
L'Allemagne, le plus grand consommateur européen d'énergie, mais aussi le plus dépendant du gaz russe, a été le premier pays à mettre en place des incitations pour alléger cette consommation, avec des trains bon marché pour éviter la voiture et des initiatives de l'administration fédérale pour donner le bon exemple. Dans les bureaux des services publics, le climatisateur se déclenche cet été à 26 degrés au lieu de 22 degrés. Le Danemark, qui importe du gaz russe via l'Allemagne, est lui aussi en train de s'y mettre, tout comme l'Espagne ou le Japon. Cet été, les compagnies nippones vont même récompenser les ménages les plus vertueux en leur allouant des points de consommation. En matière d'économie d'énergie, les pays occidentaux savent faire. Ils l'ont démontré après le choc pétrolier de 1973. Plus récemment, après le tsunami de Fukushima en 2011 et la mise à l'arrêt de la majeure partie du parc nucléaire, le Japon a réussi à éviter la grande panne en diminuant sa consommation de 15%.
L'objectif de ces restrictions est de garantir l'approvisionnement pour l'hiver.
Oui, la grande crainte, c'est que la Russie coupe le robinet du gaz en Europe. D'après Berlin, cette rupture pourrait intervenir dès le 11 juillet à la faveur d'une opération de maintenance sur le gazoduc Nord Stream. Dépenser moins d'énergie dans ce contexte, c'est gérer la pénurie, se projeter dans une économie de guerre en choisissant de renoncer au superflu pour éviter les rationnements qui menacent. Ces mesures provisoires exceptionnelles peuvent être bien acceptées et comprises parce qu'elles servent aussi la cause du pouvoir d'achat. C'est le premier pas vers la sobriété, mais ce n'est pas encore en soi un changement de modèle. L'Europe a pris l'engagement de réduire sa consommation d'énergie de 10% d'ici 2030 par rapport à l'année 2020. C'est une rupture et cela nécessite des investissements sur le long terme et une communication claire sur les changements de comportement qu'implique la sobriété énergétique.
Alors les entreprises se préparent-elles à ce changement de paradigme?
Alors, certaines entreprises sont à l'avant-garde du processus. Elles revoient déjà leur fonctionnement pour dépenser moins d'énergie. Cela va au-delà de la mesure d'économie. Elles doivent réfléchir à ce qu'elles produisent, s'inscrire dans l'économie circulaire, celle du recyclage, penser relocalisation. Cette révolution à accomplir n'est pas toujours compatible avec les règles en vigueur, les règles de notre économie de marché. Un investissement, par exemple, doit être amorti sur 10 ans maximum, selon les normes comptables. Or, pour passer à la sobriété, il faut plutôt tabler sur 15 ans d'amortissement. C'est pourquoi les entreprises demandent aujourd'hui que ces nouvelles exigences écologiques soient mieux prises en compte. En France, 84 chefs d'entreprise ont publié une tribune commune ce week-end pour passer d'une sobriété énergétique d'urgence à une sobriété organisée. Le gouvernement français, pour le moment, en est au stade des consultations. Un groupe de travail réunissant public et entreprises privées a été lancé la semaine dernière.
Et Dominique, du côté du grand public, la priorité est donnée à la défense du pouvoir d'achat.
Oui, en France, pour le moment, cet été, il n'est même pas question de faire des économies d'énergie. Difficile d'expliquer aux Français qu'ils doivent dépenser moins de carburant quand ils s'apprêtent à prendre leur voiture ou l'avion pour partir en vacances. On en est donc encore très loin des exigences de la sobriété énergétique et de la définition des moyens pour y parvenir. Parmi les pistes évoquées, on pense à des logements plus petits, donc plus faciles à chauffer, ou à des limitations de vitesse sur la route. Ces choix ou d'autres bouleverseront radicalement le quotidien des ménages. Ils nécessiteront beaucoup de pédagogie pour éviter le rejet. Tout le monde a encore en mémoire le mouvement des Gilets jaunes en réaction à la taxe écologique sur les carburants.
Aujourd'hui, l'économie en bref, c'est aussi la Chine prête à injecter 75 milliards de dollars pour soutenir son économie.
D'après l'agence Reuters, Pékin pourrait lancer un nouveau fonds dédié aux infrastructures. Il sera doté de 500 milliards de yuan, soit environ 75 milliards de dollars. Cette relance permettrait de maintenir un taux de croissance en ligne avec les objectifs fixés par le Parti communiste chinois.
Vous découvrez sur nos ondes la chanson « Rends l'amour » de Benjamin Biolay, cette chanson qui fait partie de notre sélection musicale du mois de juillet. On vous en parlait en sommaire, Europa Voice numéro 100, une première partie consacrée aujourd'hui à la visite d'Anthony Albanese à Paris, première rencontre officielle avec Emmanuel Macron. La France et l'Australie, les deux pays sont-ils enfin réconciliés? Eh bien, on a posé la question à Nathanaël Bloch.
Europa Voice et aujourd'hui un épisode particulier hein, puisqu'on célèbre le 100e numéro de ce podcast et bien sûr celui qui est là depuis l'épisode 1, Nathanaël Bloch, messieurs dames.
Bonjour Marianne.
Avant de commencer, Nathanaël, une petite pensée pour Christophe, hein, Christophe Mallet, puisque c'est avec lui que vous avez créé ce podcast.
Oui, effectivement, hein, le 100e de cette série de podcasts, on a commencé ça avec Christophe il y a 3-4 ans de cela. Maintenant, on savait pas après le numéro 1 qu'on allait aller jusqu'au numéro 100, mais toujours autant de plaisir de retrouver les auditeurs d'SPS après 100 podcasts. On est passé par plein de sujets, par le Brexit, par des élections un peu à travers toute l'Europe, puis on va le voir aujourd'hui hein, aussi par les relations franco-australiennes qu'on a traitées nombreuses fois. Donc non, toujours un grand plaisir de retrouver les auditeurs et effectivement une pensée pour Christophe à l'initiative aussi de ce projet.
Et c'est pas fini, hein, c'est le numéro 100, mais il y en aura plein d'autres encore. Une opération séduction, Nathanaël, opération séduction de la part de l'Australie qui tente de reconquérir le cœur de la France.
Effectivement, Marianne, on a une rencontre, peut-être qu'on peut déjà qualifier d'historique, mais en tout cas d'extrêmement importante, entre Anthony Albanese et Emmanuel Macron, il y a quelques jours de cela. Alors, il faut d'abord aussi préciser pour nos auditeurs que c'est pas la première fois hein, que les deux dirigeants se parlent ou se rencontrent, parce que après l'élection d'Anthony Albanese, il y avait eu un appel déjà téléphonique entre le président français et le premier ministre australien. Et puis, les deux leaders se sont vus en amont de cette rencontre bilatérale à Paris au sommet de l'OTAN à Madrid. Donc, c'est pas la première fois que les deux leaders se rencontrent, mais en tout cas, c'est la première visite officielle d'Albanese à Paris. Et puis, ce qu'on peut dire vraiment, c'est que des deux côtés, on a un mot en tête. En français, c'est réinitialisation. Et puis, en anglais, c'est reset. C'est vraiment un nouveau départ des relations franco-australiennes après les épisodes un peu plus compliqués de la fin d'année dernière.
Et justement, donc, si on rappelle à nos auditeurs la crise de la relation franco-australienne, c'est parce que la France et l'Australie avaient signé un contrat pour faire livrer des sous-marins par une entreprise française à l'Australie, que Scott Morrison, le premier ministre de l'époque, avait rompu ce contrat un petit peu au dernier moment à la faveur d'un contrat avec les États-Unis et le Royaume-Uni à la place, et Paris, à l'époque, avait qualifié ça de coup de couteau dans le dos. Mais justement, Nathanaël, lors de l'allocution commune à l'Élysée, où on a entendu Emmanuel Macron et Anthony Albanese, la crise des sous-marins n'a pas du tout été évoquée, mais les deux dirigeants ont d'autres ambitions communes à partir de maintenant.
Oui, d'ailleurs, c'était assez intéressant, Marianne, parce que c'est presque comme si cet épisode n'était pas à mettre à la solde du pays Australie pour Emmanuel Macron, mais plutôt à la solde du précédent gouvernement, celui libéral de Scott Morrison. Alors, en effet, hein, Emmanuel Macron ne s'est pas caché derrière une histoire fantasmée d'une relation où tout va bien. On a quand même rappelé brièvement cet épisode des sous-marins. Et puis même dans son allocution, dans sa déclaration officielle, hein, le président de la République a parlé d'une phase difficile. Hein, c'est ses mots, c'est les mots de son discours. Mais les principaux moments de cette rencontre bilatérale ont plutôt été tournés à la fois vers l'avenir, mais surtout en fait vers l'Indo-Pacifique. Pour Emmanuel Macron et pour Anthony Albanese, c'était presque l'affirmation du fait que ni la France ni l'Australie ne pouvaient se passer de l'autre pour pouvoir construire quelque chose dans l'Indo-Pacifique sur plein de domaines, hein, les domaines de la défense, mais aussi les domaines de l'environnement, de la biodiversité, de l'énergie. Et donc, les deux leaders, en fait, ont besoin l'un de l'autre. Et c'est vraiment le principal message de cette rencontre bilatérale entre Albanese et Macron. Et puis, l'autre élément qui était important aussi, c'est que Emmanuel Macron a presque reconnu, d'une certaine façon, que l'Australie était revenue dans le jeu des nations de par la proactivité de Albanese de vouloir faire avancer, justement, les dossiers climatiques et de défense de l'environnement. Donc, vraiment constater ce qui s'est passé et les épisodes difficiles, comme vous l'avez rappelé, de la fin d'année dernière, mais surtout construire un narratif beaucoup plus positif et beaucoup plus, j'allais dire, dépendant, une dépendance réciproque entre l'Australie et la France dans l'Indo-Pacifique pour les prochaines années.
Est-ce que cette réconciliation entre Paris et Canberra n'est-elle pas surtout stratégique, dans le sens où Emmanuel Macron et Anthony Albanese savent très bien qu'ensemble, ils sont plus forts pour faire face aux ambitions de la Chine ?
La stratégie Indo-Pacifique, encore une fois, elle recouvre plusieurs types de défis. Elle recouvre les défis de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité, la préservation des océans, mais aussi tout un volet, j'allais dire, en lien avec la défense et la sécurité, ce qui se dresse en face, comme menace en fait pour à la fois l'Australie et la France dans la région, c'est bien sûr la puissance chinoise. Alors du côté australien, hein, on avait déjà eu avec Albanese, hein, au moment où il y a eu son élection, déjà certains remous avec la volonté de la Chine de mettre une main beaucoup plus puissante sur les îles Salomon, hein, et d'installer finalement un relais en termes de présence policière et militaire. Donc, c'est-à-dire que pour l'Australie, c'est vraiment déjà un quotidien et une menace qui existe. Et puis pour la France, véritablement, ça fait partie d'une des premières mesures phares à l'international d'Emmanuel Macron, c'est celle de cet axe Indo-Pacifique de Paris à Canberra en passant par New Delhi, une nouvelle route de la soie, Marianne, en quelque sorte, qui évite la Chine. Et ça fait aussi écho au grand frère, à l'allié américain, parce que les États-Unis eux-mêmes redoutent en fait que la Chine ne parvienne à construire une base navale dans le Pacifique Sud qui lui permettrait de projeter une puissance maritime bien au-delà de ses frontières terrestres. Donc vous le voyez, hein, la question du dossier chinois, c'est véritablement, si on peut s'exprimer ainsi, le fédérateur négatif qui fait que l'Australie et la France peuvent maintenant construire quelque chose et aller au-delà de cet épisode des sous-marins. Et puis, vraiment en termes de même de wording, j'allais dire, de narratif, le Premier ministre australien a quand même eu des mots assez forts, puisqu'il avait déclaré, et là je le cite, hein, dans une récente interview à l'Australian Financial Review, qui est un équivalent du Figaro ou des Échos, hein, pour nos auditeurs de la métropole française, il avait appelé les Chinois à méditer les leçons de l'échec stratégique de la Russie en Ukraine. Donc c'est quand même une déclaration assez forte pour que la Chine, ou en tout cas que les dirigeants chinois prennent la mesure de la volonté australienne, encore une fois, de ne pas laisser la Chine avoir une politique expansionniste dans l'Indo-Pacifique.
Ça, c'est pour le dossier Indo-Pacifique. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure le dossier climatique, la lutte contre le réchauffement climatique. On le sait, hein, l'Australie est vue à l'échelle mondiale un peu comme le mauvais élève dans cette lutte. En quoi c'est intéressant pour Emmanuel Macron de se rapprocher d'Anthony Albanese dans la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce qu'il n'a pas plutôt à y perdre?
Non, Marianne, je crois que vraiment, Emmanuel Macron, il a tout intérêt à construire quelque chose avec l'Australie et l'Australie en tant que puissance régionale, et aller au-delà, en fait, d'une certaine façon, étendre un petit peu le partenariat stratégique dont on avait parlé, hein, avec les sous-marins, parce qu'il faut le rappeler aussi pour nos auditeurs. Alors, malgré le fait qu'il y a eu l'annulation de ce contrat de 56 milliards d'euros qui portait principalement sur des sous-marins, avec ce partenariat stratégique, avec ce contrat du siècle, il y avait plein d'autres domaines collatéraux de coopération entre les deux pays. Il y avait des domaines de coopération militaire, scientifique, éducation. Il y avait plein de domaines de coopération entre les deux pays. Et donc, d'une certaine façon, pour Emmanuel Macron, malgré l'annulation de ce contrat, il a tout intérêt à revenir encore dans ce jeu de coopération avec l'Australie. Alors, si ça passe pas par ces sous-marins, ça doit quand même passer par, encore une fois, plein de dossiers dans cette stratégie Indo-Pacifique. Et puis, il faut le dire aussi, c'est assez cohérent avec ce qui a été fait à l'échelle, on en reviendra dans cette deuxième partie d'Europa Voice, mais ce qui a été fait à l'échelle européenne et la proactivité du leader français en termes d'environnement. Donc non, je crois que Emmanuel Macron, il a tout intérêt sur ces questions de changement climatique, mais ça a aussi des impacts, j'allais dire, économiques très concrets, hein. Quand on parle de changement climatique, on parle aussi d'énergie renouvelable et on parle de nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène. On sait qu'en ce moment, en France, il y a énormément d'entreprises françaises qui arrivent sur le territoire australien, et ben pour une espèce d'échange de bons procédés, et proposer, j'allais dire, à l'Australie de mettre à disposition le savoir-faire de l'ingénierie française pour construire une filiale d'avenir de ces nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène. Donc non, je crois qu'Emmanuel Macron, il a tout intérêt à reconstruire quelque chose de solide et à reconstruire des coopérations, pas une seule, mais des coopérations dans plein de domaines différents entre l'Australie et la France.
Pour conclure cette première partie d'épisode, Nathanaël, Emmanuel Macron, à la fin de l'allocution conjointe à l'Élysée, il a dit qu'il fallait regarder l'avenir et pas le passé. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, hein. Il a dit que Anthony Albanese n'était en rien responsable de ce qui s'était passé. On pouvait y lire un petit tacle pour Scott Morrison. Il y a quelques semaines, le gouvernement australien a annoncé qu'il allait payer au constructeur français Naval Group 555 millions d'euros de déménagement à la suite de la rupture du contrat. Bon, pour préciser à nos auditeurs, c'est seulement 1% du prix total qui a été dépensé dans ce contrat rompu. Nathanaël, pour conclure, est-ce qu'on est réconcilié?
Alors, c'est une très bonne question, Marianne, comme souvent. Je pense que effectivement, des deux côtés, à la fois du côté officiel français et du côté officiel australien, on assiste encore une fois, je ne sais pas si on peut parler déjà de réconciliation, mais en tout cas à une réinitialisation, à un nouveau départ, à un reset des relations entre les deux pays. Maintenant, on reste encore à, j'allais dire, réconcilier, si on veut utiliser votre mot, l'opinion publique. Ça, c'est la première chose. Hein. Il va falloir, il y a quand même notamment, je pense, beaucoup plus du côté australien que du côté français, ce besoin encore pour Albanese de, d'une certaine façon de, ben, d'expliquer ce qui va se passer les prochaines étapes avec la France. Mais là, moi, je voudrais peut-être soulever quelque chose de plus important. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse très attention à ce que ce ne soit pas non plus une relation bilatérale qui mette à mal le Parti libéral en Australie. C'est toujours délicat d'une certaine façon de... Il ne faut pas cracher sur l'avenir. Et donc, je pense aussi ce qui va être très important, c'est de voir comment les officiels français vont maintenant un petit peu ménager le Parti libéral et en fait ceux qui étaient aux manettes pendant cet épisode des sous-marins. Parce qu'encore une fois, en Australie, c'est un pays qui est... connu pour son instabilité politique. On a eu, on a des élections tous les 3-4 ans, donc il y a des changements de leadership qui sont assez récurrents, et donc il faudrait pas en fait qu'on en arrive à une position où on a une France qui s'est réconciliée, pour encore une fois utiliser vos mots, qui s'est réconciliée avec l'Australie, mais avec le parti travailliste, et qui laisse un peu de côté le parti libéral, parce qu'encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait, et les mêmes personnes qui étaient aux manettes pendant cette annulation des sous-marins sont aussi capables de revenir pour diriger le pays dans 2, 3, 4 ans. Donc je pense que c'est ça qui va être aussi intéressant à regarder, c'est de voir comment est-ce que le parti libéral en interne, alors ça c'est peut-être une problématique plus australienne, mais va pouvoir aussi passer outre cet épisode français et voir comment on va pouvoir construire encore une fois une relation indépendamment de tel ou tel parti politique, mais constructive avec... avec le pays. Et puis je voudrais juste rajouter en dernier élément que il y a aussi quelque chose qui est primordial pour la France, parce qu'on a parlé de la stratégie Indo-Pacifique, mais je sais pas si c'est très clair pour nos auditeurs, mais c'est dans l'Indo-Pacifique, il y a un nombre extrêmement important de territoires d'outre-mer, de territoires français d'outre-mer. Et donc c'est pas simplement une stratégie dans une zone du monde comme ça qui est stratégique parce que il y a la menace chinoise etc. C'est aussi parce qu'il y a des bouts de France, des confettis français qui sont partout dans l'Indo-Pacifique. Donc je crois que tout le monde a intérêt à avoir une relation apaisée et constructive pour l'avenir.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Nathanaël.
Merci beaucoup Marianne. Noémie danse.
Émilie dansait. C'était encore notre sélection musicale du mois de juillet, le titre « Émilie danser » interprété par Mickey 3D. La deuxième partie de l'Europa Voice numéro 100 consacrée à la fin de la présidence française à la tête du Conseil de l'Union européenne sera à écouter dans l'émission de samedi présentée par Thomas Mercier. Ou bien, si vous voulez écouter cette Europa Voice en intégralité, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en ligne sur SBS French. Il est 13h57, l'heure du rappel des titres. Les inondations sur la côte est de l'Australie et notamment en Nouvelle-Galles du Sud, eh bien l'heure est désormais à la reconstruction, mais le gouvernement appelle à la prudence. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale en France, la chef du gouvernement Elisabeth Borne a prononcé hier son discours de politique générale devant un hémicycle chahuté. 1 million de musulmans attendus à la Mecque en Arabie Saoudite. Ce jeudi 7 juillet marque le premier jour du pèlerinage annuel sur fond de restrictions sanitaires. Et enfin, du sport et la 5e étape du Tour de France. L'Australien Simon Clark s'est imposé sur les pavés du nord de la France. Le Belge Wout Van Aert conserve, lui, son maillot jaune. Messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi, d'avoir passé cette heure en ma compagnie. Je m'appelle Marianne Murat. Notre prochain journal ensemble, c'est jeudi prochain. Mais pour vous, le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera samedi avec Thomas Mercier, puis dimanche avec Jean-Noël Ducasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité ou alors seulement certains extraits sur notre site internet sbs.com.au/french, notre page Facebook SBS French, Spotify, Apple Music, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast qui vous plaisent. Je vous laisse sur cette musique chantée par Starmania, Stone, le monde est stone.
Et me laisser mourir, stone.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.